André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité.
T'es le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman.
Aujourd'hui, nous poursuivons notre série d'émissions sur l'œuvre de Maurice Leblanc et son héros, le gentleman cambrioleur Arsène Lupin, avec nos deux amis comédiens, Françoise Bénard. Bonjour Françoise.
Bonjour à tous, bonjour André, bonjour Philippe.
Et Philippe Merlan, bonjour Philippe.
Bonjour Françoise, bonjour André, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous et nous faire profiter de vos lectures de l'œuvre de Maurice Leblanc. Dans cette troisième émission de la série, nous allons vous présenter Arsène Lupin contre Herlock Sholmes, qui est un recueil de deux histoires écrites par Maurice Leblanc sur les aventures opposant Arsène Lupin et Herlock Sholmes. Il fait suite à la dernière nouvelle du recueil Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, Herlock Sholmes arrive trop tard. Les deux histoires sont publiées pour la première fois à partir de novembre 1906 dans le journal Je sais tout, sous le titre « Les nouvelles aventures d'Arsène Lupin ». Le volume sort le 10 février 1908 avec les deux histoires modifiées, l'épilogue notamment. Une autre édition paraît en 1914 avec de nouvelles modifications. Herlock Sholmes est une copie transparente du héros de Conan Doyle, Sherlock Holmes, qui, en 1906, connaît déjà un très grand succès en France, ses aventures étant publiées depuis 1902. L'historien des arts et musicologue Jean-Yves Patte rapporte dans le livre accompagnant le livre audio « La demeure mystérieuse », publié aux éditions Frémaux et Associés, une rumeur selon laquelle Pierre Lafitte, éditeur de Maurice Leblanc, aurait dit un jour pour l'encourager « Vous serez le Conan Doyle français ». Et cette aventure d'Arsène Lupin, au scénario et au ton humoristique, tranche avec les œuvres plus sombres de Maurice Leblanc. Dans Arsène Lupin contre Herlock Sholmes, nous trouvons deux cas intrigants, la Dame Blonde et la Lampe Juive. Et dans les deux cas, il fait face au génie de Sholmes qui cherche à arrêter le voleur à tout prix. Lupin, s'appuyant sur son intelligence, sa confiance en soi et sa capacité à changer d'identité, défie Sholmes dans une course contre la montre. Dans La Dame Blonde, dont nous allons parler aujourd'hui, Lupin est impliqué dans le vol d'un bijou de valeur ayant appartenu à trois générations de la même famille. Sholmes, avec ses compétences de déduction aiguisées, suit les indices laissés par Lupin, mais le voleur parvient à le déjouer une fois de plus. Dans La Lampe Juive, Lupin est confronté à une énigme encore plus compliquée, la disparition d'une ancienne lampe d'origine orientale. Ses ruses mènent Sholmes dans une impasse où Lupin trouve une fois de plus pourquoi il est considéré comme le plus grand voleur de tous les temps. Voici un extrait de La Dame Blonde. Dans cette première partie du roman, Arsène Lupin contre Herlock Sholmes, le célèbre Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, se retrouve face au non moins célèbre détective Herlock Sholmes. Maurice Leblanc n'a pas eu l'autorisation d'utiliser dans son roman le véritable nom du fameux détective anglais Sherlock Holmes. Et la confrontation promet un combat de titans où se mêlent brio, intelligence, stratégie et incroyables rebondissements, surtout quand se dresse entre les deux hommes une mystérieuse dame blonde soupçonnée de meurtre et du vol d'un inestimable bijou ayant appartenu à trois générations de la même famille, le diamant bleu. Dans cette première partie, le baron d'Autrec est retrouvé mort par son domestique Charles, avenue Henri Martin. Antoinette, la demoiselle de compagnie embauchée depuis peu, a disparu. L'inspecteur Ganimard arrive sur place pour analyser la scène. Ses soupçons vont vers Antoinette, dont une poignée de cheveux a été retrouvée dans la main de la victime. On écoute Philippe.
Le commissaire monta et tout de suite, du premier coup d'œil, il dit au domestique « Tiens, vous m'aviez annoncé que la chambre était dans le plus grand désordre. » Il se retourna. Charles semblait cloué au seuil, hypnotisé. Tous les meubles avaient repris leur place habituelle. Le guéridon se dressait entre les deux fenêtres, les chaises étaient debout et la pendule au milieu de la cheminée. Les débris du candélabre avaient disparu. Il articula, béant de stupeur, « Le cadavre, monsieur le baron !»« Au fait !» s'écria le commissaire. « Où se trouve la victime ?» Il s'avança vers le lys, sous un grand drap qu'il écarta, reposait le général baron d'Autrec. Le visage était calme, les yeux étaient clos. Le domestique balbutia. « Quelqu'un est venu. »« Par où ?»« Je ne sais pas, mais quelqu'un est venu pendant mon absence. » « Tenez, il y avait là par terre un poignard très mince en acier. Et puis, sur la table, un mouchoir avec du sang. Ben, il n'y a plus rien. On a tout enlevé, on a tout rangé. Mais qui ? L'assassin. Nous avons trouvé toutes les portes fermées. C'est qu'il était resté dans l'hôtel. Il y serait encore, puisque vous n'avez pas quitté le trottoir. » Le domestique réfléchit et prononça lentement. « En effet, mais je ne me suis pas éloigné de la grille. Cependant, voyons. » « Quelle est la dernière personne que vous ayez vue près du baron ?»« Mademoiselle Antoinette, la demoiselle de compagnie. Qu'est-elle devenue ?»« Selon moi, son lit n'étant même pas défait, elle a dû profiter de l'absence de la sœur Auguste pour sortir elle aussi. Cela ne m'étonne qu'à moitié. Elle est jolie, elle est jeune. Mais comment serait-elle sortie ?»« Par la porte. Vous aviez mis le verrou et accroché la chaîne. Mais bien plus tard, à ce moment, elle avait dû quitter l'hôtel. » Et le crime aurait eu lieu après son départ, naturellement.
L'inspecteur Ganimard, poursuivant son enquête, persuadé que Madame Réal est bien la dame blonde, complice d'Arsène Lupin, s'apprête à la confondre. Voici un deuxième extrait, dit par Françoise.
Madame Réal observait d'un air stupide, et comme si vraiment elle ne saisissait pas le sens de ses paroles. Il continua. « Et maintenant, voici deux flacons d'odeur, sans étiquette, il est vrai, et vides, mais encore assez imprégnés de leur odeur pour que Mademoiselle Gerbois ait pu, ce matin même, distinguer le parfum de cette dame blonde qui fut sa compagne de voyage durant 2 semaines. Or, l'un de ces flacons provient de la chambre que Madame de Réal occupait au château de Crozon et l'autre de la chambre que vous occupiez à l'hôtel Beau Rivage. Que dites-vous ? La dame blonde ? Le château de Crozon. » Sans répondre, l'inspecteur aligna sur la table 4 feuilles. « Enfin, dit-il, voici sur ces 4 feuilles un spécimen de l'écriture d'Antoine Bréa, un autre de la dame qui écrivit au baron Herschmann lors de la vente du diamant bleu, un autre de Madame de Réal lors de son séjour à Crozon et le 4e de vous, madame. C'est votre nom et votre adresse donnée par vous au portier de l'hôtel Beau Rivage à Trouville. Or, comparez les 4 écritures, elles sont identiques. Mais vous êtes fou, monsieur, vous êtes fou. Que signifie tout cela ? Cela signifie, madame, s'écria Ganimard dans un grand mouvement, que la dame blonde, l'ami et la complice d'Arsène Lupin, n'est autre que vous. Il poussa la porte du salon voisin, se roua sur monsieur Gerbois, le bouscula par les épaules et l'attirant devant madame Réal. « Monsieur Gerbois, reconnaissez-vous la personne qui enleva votre fille et que vous avez vue chez maître de Tinan ?»« Non. » Il y eut comme une commotion dont chacun reçut le choc. Ganimard chancela. « Non. Est-ce possible ? Voyons, réfléchissez. »« Ah, mais c'est tout réfléchi. Madame est blonde comme la dame blonde, pâle comme elle, mais elle ne le ressemble pas du tout. Je ne puis croire. » Une pareille erreur est inadmissible. Monsieur d'Autrec, vous reconnaissez bien Antoinette Bréa ? J'ai vu Antoinette Bréa chez mon oncle. Ce n'est pas elle. Et madame n'est pas non plus Madame de Réal, affirma le comte de Crozon. C'était le coup de grâce. Ganimard en fut étourdi et ne broncha plus, la tête basse, les yeux fuyants. De toutes ces combinaisons, il ne restait rien. L'édifice s'écroulait.
Ganimard est parti sur les traces de Madame Réal, mais il ne s'agit pas de la dame blonde. Elle lui remet une lettre d'Arsène Lupin qui dévoile son stratagème et confirme donc son implication dans l'affaire du diamant bleu. Pour faire avancer l'enquête, le comte de Crozon appelle Sherlock Holmes à la rescousse. Arsène Lupin, qui dîne avec le narrateur dans un restaurant près de la gare du Nord, rencontre Sherlock Holmes. Le détective anglais le prévient qu'il le ferait arrêter 10 jours plus tard. Suite à maintes péripéties, il retourne sur les lieux du crime avec son ami Wilson pour essayer de trouver ce qui les relie et résoudre le mystère des disparitions de Lupin et de la Dame Blonde. Sholmes découvre que la Dame Blonde n'est autre que Clotilde, la fille de l'architecte. Maintenant qu'il connaît son identité, il la force à le suivre pour la livrer à Ganimard. Voici un extrait du chapitre 5 du Par Françoise.
Je vous accuse d'avoir tué le baron d'Autrec. Non, non, c'est une infamie. Vous avez tué le baron d'Autrec, mademoiselle. Vous étiez entrée à son service sous le nom d'Antoinette Bréa dans le but de lui ravir le diamant bleu. Et vous l'avez tué. De nouveau, elle murmura, brisée, réduite à la prière. Taisez-vous, monsieur, je vous en supplie. Puisque vous savez tant de choses, vous devez savoir que je n'ai pas assassiné le baron. Je n'ai pas dit que vous l'aviez assassiné, mademoiselle. Le baron d'Autrec était sujet à des accès de folie que seule la sœur Auguste pouvait maîtriser. Je tiens ce détail d'elle-même. En l'absence de cette personne, elle a dû se jeter sur vous. Et c'est au cours de la lutte pour défendre votre vie que vous l'avez frappée. Épouvantée par un tel acte, vous avez sonné, vous vous êtes enfuie sans même arracher du doigt de votre victime ce diamant bleu que vous étiez venu prendre. Un instant après, vous rameniez un de complices de Lupin, domestique dans la maison voisine, vous transportiez le baron sur son lit, vous remettiez la chambre en ordre, mais toujours sans oser prendre le diamant bleu. Voilà ce qui s'est passé. Donc, je le répète, vous n'avez pas assassiné le baron. Cependant, ce sont bien vos mains qui l'ont frappé. Elle les avait croisées sur son front, ses longues mains fines et pâles, et elle les gardait longtemps ainsi, immobiles. Enfin, déliant ses doigts, elle découvrit son visage douloureux et prononça. « Et c'est tout cela que vous avez l'intention de dire à mon père ?»« Oui, et je lui dirai que j'ai comme témoin mademoiselle Gerbois, qui reconnaîtra la Dame Blonde, la sœur Auguste qui reconnaîtra Antoinette Bréa, la comtesse de Crozon qui reconnaîtra madame de Réal. Voilà ce que je lui dirai. « Vous n'oserez pas, » dit-elle, recouvrant son sang-froid, devenant la menace d'un péril immédiat. Il se leva et fit un pas vers la bibliothèque. Clotilde l'arrêta. « Un instant, monsieur. » Elle réfléchit, maîtresse d'elle-même maintenant et fort calme, lui demanda. « Vous êtes Herlock Sholmes, c'est ça ?»« Oui. Que voulez-vous de moi ?»« Ce que je veux ?»« J'ai engagé contre Arsène Lupin un duel, dont il faut que je sorte vainqueur. » Dans l'attente d'un dénouement qui ne saurait tarder beaucoup, j'estime qu'un otage aussi précieux que vous me donne sur mon adversaire un avantage considérable. Donc, vous me suivrez, mademoiselle. Je vous confierai à quelqu'un de mes amis. Dès que mon but sera atteint, vous serez libre. C'est tout ? C'est tout. Je ne fais pas partie de la police de votre pays et je ne me sens par conséquent aucun droit de justicier. Elle semblait résolue. Cependant, elle exigea encore un moment de répit. Ses yeux se fermèrent et Sholmes la regardait si tranquille, soudain, presque indifférente au danger qui l'entourait. Et même son gel anglais se croit-elle en danger ? Mais non, puisque Lupin la protège. Avec Lupin, rien ne peut vous atteindre. Lupin est tout puissant. Lupin est infaillible. « Mademoiselle, dit-il, j'ai parlé de 5 minutes. Il y en a plus de 30. Me permettez-vous de monter dans ma chambre, monsieur, et d'y prendre des affaires ? Si vous le désirez, mademoiselle, j'irai vous attendre rue Montchanin. Je suis un excellent ami de concierge Gianniou. Ah, vous savez, fit-elle avec un effroi visible, je sais bien des choses. Soit, je sonnerai donc. On lui apporta son chapeau et son vêtement et Sholmes lui dit « Il faut que vous donniez à monsieur d'Estanges une raison qui explique votre départ et que cette raison puisse, au besoin, expliquer votre absence pendant quelques jours. C'est inutile. Je serai ici tantôt. » De nouveau, ils se défièrent du regard, ironique, tous deux et souriant. « Comme vous êtes sûr de lui, » dit Sholmes, aveuglément. « Tout ce qu'il fait est bien, n'est-ce pas ? Tout ce qu'il veut se réalise. Et vous approuvez tout, et vous êtes prêt à tout pour lui. »« Je l'aime, » dit-elle frissonnante de passion. Et vous croyez qu'il vous sauvera ? Elle haussa les épaules et, s'avançant vers son père, elle le prévint. « Je t'enlève, monsieur Stickman. Nous allons à la Bibliothèque nationale. Tu rentres déjeuner ? Peut-être. Ou plutôt non. Mais ne t'inquiète pas. » Et elle déclara fermement à Sholmes. « Je vous suis, monsieur. Sans arrière-pensée ? Les yeux fermés. Si vous tentez de vous échapper, j'appelle, je crie, on vous arrête et c'est la prison. N'oubliez pas que la dame blonde est sous le coup d'un mandat. Je vous jure sur l'honneur que je ne ferai rien pour m'échapper. Je vous crois. Marchons. » Ensemble, ils l'avaient prédit. Tous deux quittèrent l'hôtel. Sur la place, l'automobile stationnait, tournée dans le sens opposé. On voyait le dos du mécanicien, sa casquette que recouvrait presque le col de sa fourrure. En approchant, Sholmes entendit le ronflement du moteur. Il ouvrit la portière, pria Clotilde de monter et s'assit auprès d'elle. La voiture démarra brusquement. Herlock, œil pensif, combinait ses blancs. « Ganimard est chez lui. Je laisse la jeune fille entre ses mains. Lui dirai-je qui est cette jeune fille ? Non. Il la mènerait droit au dépôt, ce qui dérangerait tout. Une fois seul, je consulte la liste du dossier MB et je me mets en chasse. Et cette nuit, ou demain matin ou plus tard, je vais trouver Ganimard comme il est convenu. Je lui livre Arsène Lupin et sa bande. » Il se frotta les mains, heureux de sentir enfin le but à sa portée et de voir qu'aucun obstacle sérieux ne l'en séparait. Et cédant à un besoin d'expansion qui contrastait avec sa nature, il s'écria « Excusez-moi, mademoiselle, si je montre tant de satisfaction. La bataille fut pénible et le succès m'est particulièrement agréable. Succès légitime, monsieur, et dont vous avez le droit de vous réjouir. Je vous remercie. Mais quelle drôle de route nous prenons. Le chauffeur n'a donc pas entendu ? » À ce moment, on sortait de Paris par la porte de Neuilly. Que diable, pourtant, la rue Pergolèse n'était pas en dehors des fortifications. Sholmes baissa la glace. « Dites donc, chauffeur, vous vous trompez, rue Pergolèse. » L'homme répondit pas. Il répéta d'un ton plus ailé. « Je vous dis d'aller rue Pergolèse. » L'homme ne répondit point. « Ah ça, mais vous êtes sourd, mon avis. Vous y mettez de la mauvaise volonté. Nous n'avons rien à faire par ici. » « Rue Pergolèse, je vous ordonne de rebrousser chemin et au plus vite. » Toujours le même silence. L'anglais frémit d'inquiétude. Il regarda Clotilde. Un sourire indéfinissable plissait les lèvres de la jeune fille. « Pourquoi riez-vous, maugréa-t-il ? Cet incident n'a aucun rapport. Ça ne change rien aux choses. »« Absolument rien, » répondit-elle. Et tout à coup, une idée le bouleversa. Se levant à moitié, il examina plus attentivement l'homme qui se trouvait sur le siège. Les épaules étaient plus minces, l'attitude plus dégagée. Une sueur froide le couvrit. Ses mains se crispèrent, tandis que la plus effroyable conviction s'imposait à son esprit. Cet homme, c'était Arsène Lupin. « Eh bien, monsieur Sholmes, que dites-vous de cette petite promenade ?» « Délicieux, cher monsieur, vraiment délicieuse !» riposta Sholmes. Jamais, peut-être, il n'eût fallu faire sur lui-même un effort plus terrible pour articuler ses paroles sans un frémissement dans la voix, sans rien qui pût indiquer le déchaînement de tout son être. Mais aussitôt, par une sorte de réaction formidable, un flot de rage et de haine brisa les digues, emporta sa volonté et, d'un geste brusque, tirant son revolver, il le braqua sur Mademoiselle d'Estanges. « À la minute même, à la seconde, arrêtez, Lupin, ou je fais feu sur Mademoiselle !»« Je vous recommande de viser la joue si vous voulez atteindre la tempe, » répondit Lupin sans tourner la tête. Clotilde renonça. « Maxime, n'allez pas trop vite !» Le pavé est glissant, je suis très peureuse. » Elle souriait toujours, les yeux fixés au pavé dont la route se hérissait dans la voiture. « qu'il arrête donc !» lui dit Sholmes, fou de colère. « Vous voyez bien que je suis capable de tout !» Le canon du revolver frôna les boucles de cheveux. Elle murmura. « Ce Maxime est d'une imprudence. À ce train-là, nous sommes sûrs de déraper. » Sholmes remit l'arme dans sa poche et saisit la poignée de la portière, prête à s'élancer malgré l'absurdité d'un pareil acte. Clotilde lui dit « Prenez garde, monsieur, il y a une automobile derrière nous. » Il se pencha, une voiture les suivait en effet énorme. « Allons, » pensa-t-il, Je suis bien gardé et patientant. Et immobile, résigné, maître de sa colère et sans amertume. Il ne songeait plus qu'à découvrir par quel miracle Arsène Lupin s'était substitué au chauffeur, que le brave garçon qu'il avait choisi le matin sur le boulevard put être un complice placé là d'avance. Il ne l'admettait pas. Pourtant, il fallait bien qu'Arsène Lupin eût été prévenu, puisque personne auparavant ne soupçonnait son projet. Or, depuis ce moment, Clotilde et lui ne s'étaient point quittés.
Une fois encore, Lupin a tout prévu. Il arrive à faire embarquer Herlock Sholmes pour l'Angleterre. Enfin, il peut s'occuper de son déménagement et récupérer son butin rue Crevaux. Mais voici un dernier extrait, dit par Philippe.
Herlock Sholmes en face de lui. Et l'Anglais prononça ironique à son tour et plein de cette politesse dédaigneuse avec laquelle son adversaire l'avait si bien, si souvent cinglé. « Monsieur Lupin, je vous avertis qu'à partir de cette minute, je ne penserai plus jamais à la nuit que vous m'avez fait passer dans l'hôtel du baron d'Autrec. Plus jamais aux mésaventures de mon ami Wilson. Plus jamais à mon enlèvement en automobile et non plus à ce voyage que je viens d'accomplir, ficelé par vos ordres sur une couchette peu confortable. Cette minute efface tout. Je ne me souviens plus de rien, je suis payé, je suis royalement payé. » Lupin garda le silence. L'Anglais reprit. « N'est-ce pas votre avis ?» Il avait l'air d'insister, comme s'il eût réclamé un acquiescement, une sorte de quittance à l'égard du passé. Après un instant de réflexion, durant lequel l'Anglais se sentit pénétré, scruté jusqu'au plus profond de son âme, Lupin déclara. « Je suppose, monsieur, que votre conduite actuelle s'appuie sur des motifs sérieux, extrêmement sérieux. Le fait d'avoir échappé à mon capitaine et à mes matelots n'est qu'un incident secondaire de notre lutte. Mais le fait d'être ici devant moi seul, vous entendez seul en face d'Arsène Lupin, me donne à croire que votre revanche est aussi complète que possible. Aussi complète que possible. Cette maison, cernée. Les deux maisons voisines, cernées. L'appartement au-dessus de celui-ci, les trois appartements du cinquième que Monsieur Dubreuil a occupé, cernés. De sorte que vous êtes pris, Monsieur Lupin. Irrémédiablement pris. Les mêmes sentiments qui avaient agité Sholmes au cours de sa promenade en automobile, Lupin les éprouva. La même fureur concentrée, la même révolte, mais aussi, en fin de compte, la même loyauté le courba sous la force des choses. « Nous sommes quittes, monsieur, dit-il nettement. » L'Anglaise sembla ravi de cet aveu. Ils se turent. Puis Lupin reprit, déjà maître de lui et souriant. « Et je n'en suis pas fâché. Cela devenait fastidieux de gagner à tous les coups. Je n'avais qu'à allonger le bras pour vous atteindre en pleine poitrine. Cette fois, j'y suis. Touché, maître. » Et il riait de bon cœur. Enfin, il s'approcha de l'Anglais. « Et maintenant, qu'attendez-vous ? Ce que j'attends ? Oui. Ganimard est là, avec ses hommes. Pourquoi n'entre-t-il pas ? Je l'ai prié de ne pas rentrer. Et il a consenti. Je n'ai requis ses services qu'à la condition formelle qu'il se laisserait guider par moi. D'ailleurs, il croit que M. Félix Davet n'est qu'un complice de Lupin. Alors, je répète ma question sous une autre forme. Pourquoi êtes-vous entré seul ? Mais j'ai voulu d'abord vous parler. Vous avez à me parler. Hein ? Cette idée parut plaire singulièrement à Lupin. Il y a telle circonstance où l'on préfère de beaucoup les paroles aux actes. « Monsieur Sholmes, je regrette de n'avoir point de fauteuil à vous offrir. Cette vieille caisse à moitié brisée vous agrée-t-elle ? Ou bien le rebord de cette fenêtre ? Je suis sûr qu'un verre de bière serait bienvenu, hein ? Brune ou blonde ? Mais asseyez-vous, je vous en prie. Hein. Inutile, causons. J'écoute. Je serai bref. Le but de mon séjour en France n'était pas votre arrestation. » Si j'étais amené à vous poursuivre, c'est qu'aucun autre moyen ne se présentait d'arriver à mon véritable but. Et qui était ? Ben, de retrouver le diamant bleu. Le diamant bleu ! Certes, puisque celui qu'on a découvert dans le flacon du consul Blanchine n'était pas le vrai. En effet, oui, puis le vrai fut expédié par la dame blonde. Je le fis copier exactement et comme alors j'avais des projets sur les autres bijoux de la comtesse et que le consul Blanchine était déjà suspect, la susdite dame blonde, pour n'être point soupçonnée à son tour, glissa le faux diamant dans les bagages du susdit consul. tandis que vous, vous gardiez le vrai, bien entendu. Ce diamant-là, il me le faut. Impossible, mille regrets. Je l'ai promis à la comtesse de Crozon, je l'aurai. Comment l'aurez-vous, puisqu'il est en ma possession? Je l'aurai précisément parce qu'il est en votre possession. Je vous le rendrai donc, oui, volontairement. Je vous l'achète. Lupin eut un accès de gaieté. Vous êtes bien de votre pays, vous traitez ça comme une affaire. C'est une affaire, hein? Et que m'offrez-vous? La liberté de mademoiselle d'Estanges. Sa liberté. Mais je ne sache pas qu'elle soit en état d'arrestation. Par contre, je fournirai à M. Ganimard les indications nécessaires. Privée de votre protection, elle sera prise elle aussi. Lupin s'esclaffa de nouveau. « Cher monsieur, vous m'offrez ce que vous n'avez pas. Mademoiselle d'Estanges est en sûreté et ne craint rien. Je demande autre chose. » L'anglais hésita, visiblement embarrassé, un peu de rouge aux pommettes, puis, brusquement, il mit la main sur l'épaule de son adversaire. « Et si je vous proposais ma liberté ? Non ? Mais enfin, je puis sortir de cette pièce, me concerter avec M. Ganimard et me laisser réfléchir ? Oui. » Eh mon Dieu, à quoi cela me servirait-il? Ce satané mécanisme ne fonctionne plus, dit Lupin, en poussant avec irritation la moulure de la cheminée. Il étouffa un cri de stupéfaction cette fois. Le bloc de marbre avait bougé sous ses doigts. C'était le salut, l'évasion possible. Il marcha de droite et de gauche, comme s'il méditait sa réponse, puis à son tour il posa sa main sur l'épaule de l'anglais. « Tout bien pesé, monsieur Sholmès. » J'aime mieux faire mes petites affaires seul. Cependant, non, je n'ai besoin de personne. Non, mais quand Ganimard vous tiendra, ce sera fini. On ne vous lâchera pas. Qui sait? Voyons, c'est de la folie. Toutes les issues sont occupées. Il en reste une. Laquelle? Celle que je choisirai.
Merci Françoise, merci Philippe. Nous parlerons de la deuxième partie de Arsène Lupin contre Herlock Sholmès, la lampe juive, dans notre prochaine émission. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. Sholmès, qui dit à son ami Wilson. Voyez-vous, Wilson, nous nous sommes trompés de Lupin. Il faut reprendre les choses à leur début. Wilson répond, avant même, si c'est possible. C'est dans Arsène Lupin contre Herlock Sholmès et, bien sûr, de Maurice Leblanc. Vous retrouvez le podcast de cette émission sur le site de la radio altitudefm.com et toutes les informations et bien d'autres sur le site de l'Union Régionale fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, vous connaissez mon téléphone. Allez voir le théâtre amateur. C'est du théâtre de qualité, joué, mise en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.